17 décembre. Une merveilleuse échappatoire. Quel est cet élan qui pousse à chercher Dieu et cette quête est-elle bien réelle? Pour la plupart d'entre nous, elle n'est qu'une fuite face à la réalité des faits. Nous devons donc déterminer très clairement si cette quête de Dieu est une forme de fuite ou si c'est une recherche de la vérité dans tous les domaines. Vérité dans nos relations, vérité dans la valeur accordée aux choses, vérité dans les idées. Si nous cherchons Dieu uniquement parce que nous sommes fatigués de ce monde et de ses malheurs, alors c'est une fuite. Alors nous créons Dieu de toutes pièces et donc ce n'est pas Dieu. Le Dieu des temples, des livres saints, n'a rien à voir avec Dieu, bien évidemment. C'est une merveilleuse échappatoire. Mais si nous essayons de trouver la vérité, non pas exclusivement à travers une série d'actions, mais dans toutes nos actions, toutes nos idées et toutes nos relations, si nous cherchons la juste mesure, même en matière d'alimentation, de vêtements, d'habitat, alors, parce que notre esprit sera devenu capable de clarté et de compréhension, alors, quand nous chercherons la réalité ultime, nous la trouverons. Et ce ne sera plus, dans ce cas, une fuite. Mais si, à l'égard des choses de ce monde, nourriture, vêtements, habitat, relations, idées, notre attitude reste confuse, comment pouvons-nous espérer rencontrer la réalité? Nous ne pouvons que l'inventer. Ainsi donc, Dieu, la vérité ou la réalité, ne peut pas être connu par un esprit confus, conditionné, limité. Comment pareil esprit pourrait-il concevoir la réalité, concevoir Dieu? Il doit d'abord se déconditionner. Il doit s'affranchir de ses propres limites. Et ce n'est qu'ensuite qu'il pourra savoir ce qu'est Dieu, et évidemment pas avant. La réalité, c'est l'inconnu. Et le connu n'est pas le réel. Décembre. Votre Dieu n'est pas Dieu. Celui qui croit en Dieu ne pourra jamais le rencontrer. Si vous êtes ouvert à la réalité, il faut exclure toute croyance. Si vous êtes ouvert à l'inconnu, il est hors de question d'y croire. La croyance, en dernière analyse, est une forme d'autoprotection. Et seul un petit esprit peut croire en Dieu. Regardez comment croyaient les aviateurs pendant la guerre. Ils disaient que Dieu était à leur côté, alors même qu'ils lâchaient leurs bombes. Vous croyez en Dieu, alors même que vous tuez, que vous exploitez autrui. Vous vénérez Dieu et vous continuez, sans le moindre scrupule, à extorquer de l'argent, à soutenir l'armée, tout en disant croire en la mansuétude, la compassion, la bonté. Tant qu'existent les croyances, l'inconnu ne peut jamais être. Votre pensée ne peut ni le concevoir, ni le mesurer. L'esprit est le produit du passé, le résultat d'hier. Pareil esprit peut-il être ouvert à l'inconnu? Il ne peut que projeter une image, mais cette image n'est pas réelle. Donc, votre Dieu n'est pas Dieu. C'est une image de votre fabrication, un reflet de votre propre satisfaction. La réalité ne peut être que lorsque l'esprit comprend l'ensemble du processus dont il est fait et cesse d'exister. C'est lorsque l'esprit est complètement vide et alors seulement qu'il est capable de recevoir l'inconnu. L'esprit n'est pas assaini tant qu'il ne comprend pas le contenu de toute relation, sa relation à la propriété, sa relation aux autres, tant qu'il n'a pas établi de relation juste avec toute chose. Tant qu'il ne comprendra pas dans son intégralité le processus de conflit inhérent à toute relation, l'esprit ne peut pas être libre. Ce n'est que lorsque l'esprit est parfaitement immobile et silencieux, totalement inactif, qu'il ne projette rien, ne cherche rien, et qu'il est absolument silencieux, ce n'est qu'alors que survient cette chose éternelle, cette chose hors du temps. 19 décembre. L'homme religieux. Quel est l'état de l'esprit qui dit « Je ne sais pas si Dieu existe, si l'amour existe » C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas réponse de la mémoire. Je vous en prie, ne vous trouvez pas immédiatement une réponse à la question, parce que dans ce cas, votre réponse ne consistera qu'à reconnaître ce que, d'après vous, la réponse devrait être ou ne pas être. Si vous dites « c'est un état de négation », vous êtes en train de le comparer à quelque chose que vous connaissez déjà. Par conséquent, cet état dans lequel vous dites « je ne sais pas » n'existe pas. Donc, l'esprit qui est capable de dire « je ne sais pas » est dans l'unique état où il nous soit possible de découvrir quoi que ce soit. Mais celui qui dit « je sais », celui qui a infiniment bien étudié toutes les diversités de l'expérience humaine et dont l'esprit est encombré d'informations, de connaissances encyclopédiques, peut-il jamais faire l'expérience de cette chose qui ne peut pas être thésaurisée? Il s'apercevra que l'entreprise est extrêmement ardue. Lorsque l'esprit s'écarte complètement de tout le savoir qu'il a accumulé, que pour lui il n'y a plus ni Bouddha, ni Christ, ni maître, ni dispensateur de savoir, ni religion, ni citation, quand l'esprit est complètement seul, exempt de toute contamination, ce qui signifie que le mouvement du connu a cessé, alors seulement devient possible une formidable révolution, un changement fondamental. L'homme religieux, c'est celui qui n'appartient à aucune religion, à aucune nation, à aucune race, qui est à l'intérieur de lui-même, complètement seul, dans un état de non-savoir, et c'est pour lui qu'advient la bénédiction du sacré. Décembre. Je ne sais pas. Si l'on peut vraiment arriver jusqu'à cet état où l'on dit « je ne sais pas », c'est le signe d'un sens de l'humilité extraordinaire. C'en est fini de l'arrogance du savoir, des réponses pleines d'assurance destinées à impressionner. Quand vous êtes véritablement capable de dire « je ne sais pas », chose que très peu d'entre nous savent faire, alors, dans cet état-là, cesse toute peur, parce qu'on ne cherche plus à reconnaître, on ne fouille plus dans sa mémoire, on n'explore plus le champ du connu. Alors advient la chose extraordinaire. Si vous avez bien suivi jusqu'ici ce dont je parle, et pas uniquement au niveau verbal, mais si vous vivez vraiment l'expérience en ce moment même, vous vous apercevrez que lorsque vous dites « je ne sais pas », tout conditionnement a cessé. Et quel est donc alors l'état de l'esprit? Nous sommes à la recherche de quelque chose de permanent, permanent en termes de temps, de quelque chose de durable, d'éternel. Nous constatons qu'autour de nous, tout est transitoire et fluctuant, que tout naît, se fane et meurt. Et nous cherchons sans cesse à créer quelque chose qui perdure tout en restant dans le champ du connu. Mais le véritable sacré transcende toute mesure du temps. Il ne peut se trouver dans le champ étroit du connu. Le connu n'agit que par l'intermédiaire de la pensée, qui est la réponse que la mémoire donne aux défis rencontrés. Voyant cela, si je veux savoir comment faire cesser la pensée, que dois-je faire ? Je dois, bien entendu, grâce à la connaissance que j'ai de moi-même, prendre conscience de tout le processus de ma pensée. Je dois voir que toute pensée, si subtile, si élevée ou si ignoble, si stupide soit-elle, est enracinée dans le connu, dans la mémoire. Si je vois tout cela très clairement, alors l'esprit, lorsqu'il est confronté à un vaste problème, est capable de dire « je ne sais pas ». Parce qu'il n'a pas la réponse. Décembre. Au-delà des limitations des croyances. Il est à mes yeux tout aussi absurde d'être théiste que d'être athée. Si vous saviez ce qu'est la vérité, ce qu'est Dieu, vous ne seriez ni théiste, ni athée. Car dans cette conscience lucide, la croyance n'est plus nécessaire. Mais l'homme qui n'a pas cette conscience-là ne fait qu'espérer, supputer et chercher un soutien dans la croyance ou le refus de croire qui lui montre la ligne d'action particulière à suivre. Pourtant, si vous optez pour une toute autre approche, vous découvrirez vous-même, à titre individuel, quelque chose de réel qui transcende les limitations des croyances, qui est au-delà de l'illusion des mots. Mais il faut pour cela, pour cette découverte de la vérité, de Dieu, une grande intelligence qui ne consiste pas à conforter sa croyance ou son refus de croire, mais à reconnaître les obstacles que suscite notre manque d'intelligence. Et donc, pour découvrir Dieu ou la vérité, et je dis qu'une telle chose existe, je l'ai réalisée. Pour reconnaître cela, pour le réaliser, l'esprit doit être libéré de tous les obstacles qui se sont créés au fil des siècles sur fond de désir de sécurité et de protection. Vous ne pouvez pas vous libérer de la sécurité en vous contentant de dire que vous êtes libre. Pour franchir le rempart que forment ces obstacles, l'intellect ne suffit pas. Il vous faut beaucoup d'intelligence. L'intelligence, pour moi, c'est la pleine harmonie du cœur et de l'esprit. Et vous découvrirez alors, par vos propres moyens, sans rien demander à personne, ce qu'est la réalité. Décembre. Libéré des filets du temps. Sans méditation, point de connaissance de soi. Sans connaissance de soi, point de méditation. Vous devez donc d'abord savoir ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas aller très loin si vous ne commencez pas au plus près, si vous ne comprenez pas le processus quotidien de vos pensées, de vos sentiments, de vos actions. En d'autres termes, vous devez en comprendre le fonctionnement et lorsque vous vous regarderez agir, vous constaterez que la pensée part du connu pour aller vers le connu. Vous ne pouvez pas concevoir l'inconnu. Ce que vous connaissez n'est pas réel parce que tout ce que vous connaissez reste inscrit dans le temps. L'essentiel, c'est de vous libérer des filets du temps et non de vous préoccuper de concevoir l'inconnu parce que cela vous est impossible. Les réponses à vos prières sont de l'ordre du connu. Pour pouvoir recevoir l'inconnu, il faut que l'esprit soit lui-même l'inconnu. Or, l'esprit est le résultat du processus de la pensée, le résultat du temps, et ce processus de pensée doit nécessairement prendre fin. L'esprit ne peut pas concevoir ce qui est éternel, atemporel. Il faut donc qu'il se libère du temps. Le processus temporel de l'esprit doit être dissous. Ce n'est que lorsque l'esprit est totalement libéré d'hier et n'utilise donc plus le présent comme moyen d'accès au futur qu'il est capable de recevoir l'éternel. Notre souci principal dans la méditation est donc de nous connaître nous-mêmes, non seulement au niveau superficiel, mais au niveau profond, secret, de l'ensemble de notre conscience. À défaut d'avoir cette connaissance et de vous libérer de votre conditionnement, il vous sera absolument impossible de franchir les limites de l'esprit. C'est pourquoi le processus de pensée doit cesser. Et pour que cette abolition de la pensée ait lieu, la connaissance de soi est indispensable. La méditation est donc le commencement de la sagesse, c'est-à-dire la connaissance de son propre cœur et son propre esprit. Décembre. La méditation. Je vais examiner pas à pas ce qu'est la méditation. Mais ne restez pas là à attendre dans l'espoir d'avoir, à la fin, le descriptif complet d'une méthode de méditation. Ce que nous faisons en ce moment même fait partie de la méditation. Ce qu'il faut tout d'abord, c'est avoir conscience du penseur et ne pas essayer de résoudre la contradiction et de provoquer une forme d'intégration entre le penseur et la pensée. Ce penseur, c'est l'entité psychologique qui a accumulé une certaine expérience sous forme de savoir. Il est ce centre, tributaire du temps, qui est le résultat de l'influence perpétuellement fluctuante de tout ce qui l'environne, et c'est à partir de ce centre qu'il regarde, écoute, vit des expériences. Tant qu'on n'a pas compris la structure et l'anatomie de ce centre, les conflits sont inévitables, et un esprit qui est en proie au conflit est dans l'incapacité totale de comprendre la méditation dans toute sa profondeur et sa beauté. Dans la méditation, il ne doit pas y avoir de penseur, ce qui signifie que la pensée doit cesser d'exister. La pensée qui jaillit sous l'impulsion du désir d'accéder à un résultat. Il ne s'agit pas de respirer d'une certaine façon, de loucher sur votre nez ou d'activer en vous le pouvoir d'accomplir certaines prouesses spectaculaires ou toute autre stupidité puérile du même genre. La méditation n'est pas isolée de la vie. Quand vous êtes au volant ou dans un autobus, quand vous bavardez sans but particulier, quand vous marchez seul dans un bois ou quand vous regardez un papillon porté par le souffle du vent, prêter à toutes ces choses une attention sans choix fait partie de la méditation.